Det kan ju som är framstöd. Bien, puisqu'il y a deux minutes avant l'heure, si vous avez des questions à poser sur la paracha, dites-le-moi.
Depuis le début, combien à un moment qu'Ishmael, il a fait tchouva?
Oui.
Quelle était sa faute?
Non.
Quelle était sa faute?
La haine contre Yitzhak.
C'est marqué?
Oui, oui. Non, ça se délit du texte.
Parce que de l'Esav, c'est écrit. Parce que c'est plus clair, mais de l'Ishmael, c'est pas tellement clair.
Où c'est écrit l'Esav? Et ça a fait une moitié de tchouva. Et ça a fait une demi-tchouva vis-à-vis de son père, pas vis-à-vis de sa mère. Et alors, bon, je vais décrypter ça, mais pour Ishmael, prenez la paracha de Chaye Sara, vous allez prendre le chapitre 25. Parce que chet, non chet déjà. Vaïgva, vaïamod Abraham, beseva tova, zaken besavea, vaïasef ramam. Vaïkvelu oto, Yitzhak v'Ishmael banav. Le fait que Ishmael fasse passer Yitzhak devant lui montre qu'il a fait tchouva vis-à-vis d'Yitzhak. Et d'ailleurs, il suffit de voir quel est le contexte. Parce que ça se passe à Hebron. Et Ishmael revient de Mitzrayim, où il se trouvait chez Agar, il revient de Mitzrayim à Hebron pour l'enterrement d'Abraham et il fait passer Yitzhak devant lui. Et donc ça veut dire qu'il reconnaît que Yitzhak est chez lui à Hebron. Voilà, c'est clair. Alors, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là, mais toutes les données de la problématique sont sur place. Il ne faut pas oublier que Kiryat Arba a été fondé par Moshe Dayan, qui était du Maharach, pas par le Likoud. Évidemment pas par Arafat non plus. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'annonce la Torah dans la vie des patriarches, c'est que lorsque Ishmael reconnaît que Yitzhak est chez lui sur la terre d'Abraham, c'est là que Ishmael a fait tchouva. Et il disparaît. Alpene kolecham nafan. Une fois qu'il a fait tchouva, il disparaît. Ça, j'ouvre une petite parenthèse, ce sont des choses qui nous dépassent. Qui dépasse notre, pas notre entendement, on peut comprendre, mais notre expérience. Que peut signifier cet enseignement que ce que représente Ishmael dans l'histoire, c'est-à-dire l'islam, va disparaître? Qu'est-ce que ça peut signifier? De même que l'espérance, et la prophétie et l'espérance que, à la fin des temps, les goïms reconnaîtront le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ce n'est que lorsque les événements arrivent qu'on est capable de les diagnostiquer. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Okay. Mais que les événements soient annoncés, c'est le déroulement cohérent des conséquences de ce qui se passe dans les commencements de chaque époque historique. Et par conséquent, à partir du moment où un processus d'une époque historique tels que les prophètes l'ont découpé dans l'histoire du temps et déclenché, eh bien, il se déroule jusqu'à son achèvement, mais comment, sous quelle forme, dans les détails, ça personne ne le sait, à l'avance, et c'est Maïmonide qui l'a codifié dans le Mishneh Torah, tout ce que les prophètes ont prophétisé pour la fin des temps de l'exil, j'ajoute de nouveau cette précision, chaque fois qu'il y a la fin des temps dans les expressions traditionnelles juives, ça ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire la fin des temps d'exil, toujours. C'est pris des prophètes. Ve'aya, ve'aharit ayamim. Les prophètes ont prophétisé pour le retour à Sion. C'est la lecture chrétienne qui a tout traduit d'une autre manière. Je me souviens, et puis vous me rappellerez qu'on parle d'Ishmael, que quelques mois après la fin de la guerre, peut-être moins d'un an, le Congrès juif mondial m'avait demandé d'aller à... Quelle est la ville qui est au sud-ouest de la France? Il y a Bordeaux. Bon, peu importe. Il m'avait demandé d'aller parler à un couvent de prêtres basques français. Imaginez-moi, à l'époque, les prêtres étaient encore habillés en soutane, et puis imaginez-moi devant un houlam plein de soutane et de béret basque. Imaginez-la. Alors, voilà, ils étaient très intrigués. Les juifs reviennent en Palestine, comme on disait à l'époque, l'État d'Israël n'était pas encore proclamé. est-ce que c'est la fin des temps? Et pour eux, ça voulait dire la fin du monde. Ils étaient paniqués. J'ai mis une heure à leur expliquer qu'il y avait une erreur de lecture. Je ne sais pas si c'est clair. Ils étaient soulagés, je dois dire. Mais pas tellement convaincus, hein, parce que la foi, c'est la foi. Ma foi. Quoi qu'il en soit, on revient à Ishmaël. Regardez, on avait étudié une fois, je me fais exprès, hein, la raison pour laquelle Ishmaël a été séparé de Yitzhak. Je dis ça rapidement parce que, pour arriver au cours lui-même, parce que Sarah a vu que Ishmaël était metzachek, il riait au présent, alors que Yitzhak est voué à rire au futur. Yitzhak, il rira. Et les Ramim mettent en évidence qu'est-ce qu'il y avait dans ce rire d'Ishmaël qui fait que Ishmaël va être disqualifié par rapport à Yitzhak, que Sarah va dire Garesh et Ama et Bena, Kilo Irash et Bena Amana et Beni et Mitzah. Et ils ont mis en évidence, d'après les versets, que dans ce rire, il y a en racine, en germe, en préfiguration, les trois grandes fautes. Ne m'approuvez pas parce que ça me gêne. Gilou Ravayot, Shfichut Davim et Avodazara. Et ça, on a étudié ça d'après la Gemara. Celui qui se satisfait du monde tel qu'il est au présent, avec son bien et son mal, est sur le chemin d'être rachat. Les trois fautes du rachat, c'est dans les rapports avec Dieu, c'est Avodazara. Dans les rapports avec les autres créatures, c'est Shfichut Davim. Dans le rapport avec la dignité de l'homme en soi-même, c'est Gilou Arayot. Et donc, ça veut dire que être celui qui vit au présent est dans le cas de devenir le rachat de ces catégories des fautes. Donc, c'est énorme, c'est hypertrophié comme explication. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les deux enfants d'Abraham sont nommés d'après le rire. Yitzhak, c'est il rira au futur. Quand le monde sera tel qu'on aura droit de rire, et Ishmaël, c'est celui qui rit au présent. Et ça va nous expliquer la disqualification de l'un par rapport à l'autre. Mais ce que je voulais rappeler, c'est qu'est-ce qu'ils ont de commun, le rire. Parce que Abraham a enseigné que le monde a un créateur. Donc le salut est possible, donc la joie est possible, donc le rire est possible. Donc les deux connaissent cela, mais de manière radicalement différente. L'un dans la perspective messianique de la fin des temps, c'est Yitzhak, il rira au futur. Si vous me permettez la parenthèse de rira bien qui rira le dernier, ça c'est Yitzhak. Et puis Ishmaël qui se satisfait du monde dans l'état présent. Et ce que je viens de dire là est compatible avec la théologie musulmane, pour ceux qui ont étudié l'islam. Et alors, il y a un abîme entre ces deux fois d'Abraham. La première, c'est la foi d'Abraham, encore araméen, celle dont a hérité Ishmaël, c'est de se satisfaire du monde tel qu'il est, en remerciant le Créateur d'avoir créé le monde tel qu'il est maintenant. Olamazé, c'est pas la foi d'Israël. Le Créateur a créé Olamazé comme préface, mais
Vestibule.
À la rigueur, antichambre de Olam Haba. On n'est pas en cours d'Ulpan, mais regardez à quel point c'est pas facile de traduire. Eh bien, en réalité, Dieu a créé le Olam Haba et l'a réduit dans les dimensions de Olam Hazé, et en cela, il s'est détraqué de telle sorte qu'on puisse le mériter et aller vers Olam Haba. Rien à voir avec l'islam. L'islam reconnaît que le monde tel qu'il est a été créé. Bien sûr, il y a un monde tel qu'il est, mais transfiguré, qui est le paradis d'Allah, mais c'est le monde tel qu'il est, qui est le paradis d'Allah. Et, bon, vous avez compris la différence. Et alors donc, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui cite ses enseignements de ses maîtres, de Ravayot, Shfichut Damim et Avodazara, va objecter en disant comment il est possible que Bebeto, chez l'auto tzaddik, que dans la maison d'un tel tzaddik, de ce tzaddik-là qui est Abraham, Yesh Mishero Sekazé. Et alors, ça nous apprend, d'après la question, l'objection de Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand Ishmaël est dans la maison de son père, l'islam, il n'est pas comme ça, Gilou Arayot, Shfichut Damim, Avodazara. Et que le rire, c'est le rire de la controverse avec Yitzhak. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, si la controverse avec Yitzhak cesse, il a achevé sa tchouva. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, c'est pas clair?
Oui. Non, je te projette.
Oui. Ça veut dire là, on est en plein dans la problématique en question. Oui. Et alors, je crois que la grande cassure dans la société israélienne actuelle, c'est que la moitié, et moi je crois que c'est l'immense majorité du peuple, attend qu'Ishmael fasse tchouva, alors que l'autre moitié a décidé que c'est Israël qui doit faire tchouva vis-à-vis d'Arafat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y avait une... Je pèse mes mots, parce que vous avez des cassettes. Vous savez pourquoi les dentistes soignent par le nez et plus par la bouche? Parce que personne n'ose plus ouvrir la bouche. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un premier sionisme qui avait pour objectif de faire un État juif en Eretz Israël. Celui-là vient de s'achever. Il y a un deuxième sionisme qui apparaît, qui a pour objectif de faire un État palestinien en Palestine, un État arabe en Palestine. Et les gens ne se cachent pas que c'est ça la cassure qu'il y a actuellement dans la société israélienne. Donc on est en plein dans ce problème-là. Ceci dit, pour Esav, la tchouva de Esav n'a pas du tout le même dégagement, n'a pas le même achèvement. Parce que Ishmael, tzadik, c'est une notion cohérente. Ishmael n'a pas à devenir Israël pour être tzadik. Il peut y avoir Ishmael tzadik si Ishmael fait tchouva. Alors Ishmael fait tchouva vis-à-vis d'Abraham avec l'islam. Il revient au monothéisme d'Abraham, mais il lui manque de faire tchouva vis-à-vis d'Yitzhak. C'est clair? Bon. Tandis que Esav, si Esav fait tchouva, il devient Jacob. Il disparaît comme Esav. Esav tzadik, ça n'existe pas. Ça, c'est Israël. Par Joseph. Je dis ça pour ceux qui savent déjà de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est pourquoi notre conflit avec la chrétienté n'a pas du tout la même problématique que le conflit avec l'islam. Avec l'islam, ça s'arrangera si Eretz Israël est reconnu comme étant la terre des Juifs. Avec la chrétienté, ça s'arrangera si les Juifs ils sont reconnus comme Israël et pas les Romains. Comme disait Rabbi Astérix, ils sont fous ces Romains. Ils se sont pris pour Israël. Non, mais Rabbi Astérix a existé. C'était un juif du Beta Midrash de l'école de Rashi. Je ne blague pas.
Il le savait peut-être.
À l'époque, vous savez, les juifs prenaient les noms des Gaulois. Aujourd'hui, on prend bien les noms des Français. C'est quoi? Non, ne pensez pas à mon nom, à moi, c'est un nom espagnol. Bon, ceci dit, on revient au sujet. Donc, vous voyez la différence. Par conséquent, dans nos discussions avec les chrétiens, le problème, c'est d'obtenir qu'ils se reconnaissent comme étant une diaspora d'Israël pour les goyim, mais pas Israël. D'ailleurs, ça arrangera les affaires du ministère des Finances ici en Israël. Parce que la diaspora d'Israël, ce sera la chrétienté, la Maghbit sera assurée. Mais avec l'islam, il n'y a pas de dialogue. Je dois vous dire que ça n'existe pas. Et tous les dignitaires musulmans qui pourraient dialoguer avec nous ont une panique totale de se faire massacrer le lendemain. Vous connaissez ces histoires-là. Et donc, en réalité, sachez qu'il n'y a pas de dialogue. Mais si un jour il y a un dialogue, ça sera sur Eretz Israël. Et donc, il faudra que l'islam aménage sa théologie pour admettre que dans le monde, il y a un État juif. Parce que pour eux, que dans le monde, il y a un État juif, c'est un blasphème absolu. Puisque le monde doit être tout entier un État arabe, enfin musulman. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, c'est très clair. Oui. Les choses sont comme ça. Donc ces deux conflits n'ont pas du tout la même perspective. Et alors, je répète, si l'année prochaine, on prendra la paracha de Toldot avec Jacob et la naissance de Jacob et Esaü. Jacob et Esaü sont nés comme jumeaux. Un a mal tourné, mais s'il se retourne, enfin, il se remet à l'endroit, il devient le jumeau de Jacob. Mais le jumeau de Jacob, c'est Israël. Je ne sais pas si c'est clair. La preuve, c'est qu'ils se prennent pour Israël. Et d'ailleurs, j'ai lu énormément de commentaires du Moyen-Âge où les chrétiens définissent les juifs comme Esaü. Vous connaissez ça? Bon, en tout cas, nous, on est tranquilles parce que Esaü, on les a eus. Donc, on revient à notre parachute. Vaïchla. Bien, alors écoutez, voilà, le premier, je voudrais essayer, mais j'arrive jamais à toucher deux points. Le premier, c'est les anges, que les envoyés, Malachim. Nous verrons pourquoi Rashi va dire c'est des anges. Que Jacob a envoyé à Ésaü lorsque Jacob revient de l'exil pour tenter de faire la paix, alors qu'Ésaü se prépare à la guerre. Et regardez à quel point ça ressemble à ce qui est arrivé de notre temps. De notre temps, les Juifs, après la Shoah, ça commence bien sûr avant la Shoah, le sionisme, mais les Juifs, après la Shoah, ont, et ces délégations ont eu lieu. Je vous citerai quelques noms de l'époque la plus récente, quand Golda Meir est allée en Jordanie pour discuter avec le roi Hussein, eh bien, il y a eu une gaffe diplomatique des Juifs vis-à-vis des Arabes, parce qu'on a envoyé une femme, alors ils ont dit non. Il fallait savoir qu'il ne fallait pas envoyer une femme. Mais quoi qu'il en soit, c'était prévu dans la Gada de Pessah. Le chêne Yodé Alishol, at Petahlo. Mais non, ce n'est pas une blague non plus. Mais il y a eu, avant même la fondation de l'État d'Israël, des tentatives de dialogue et d'accord entre l'agence juive et les dignitaires des dynasties arabes de la région, dont la plupart étaient très favorables à un État sioniste au Moyen-Orient, parce qu'ils savaient que ça mènerait la prospérité pour les Arabes. Et puis ça a mal tourné. Ça a mal tourné, je crois, parce que les chrétiens ont voulu empêcher, surtout les Anglais à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu cette tentative des envoyés de Jacob revenant de l'exil, et puis pensant retrouver les frères, enfin les cousins, ils ont trouvé les ennemis, la Ligue arabe. Et que le fait que à la tête de la Ligue arabe, il y a eu un officier anglais, ça sera retenu dans notre bilan avec les chrétiens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le livre blanc, les promesses non tenues, enfin, les Anglais. Jusqu'à cette dernière guerre, on croyait que c'était les Allemands, la politique du chiffon de papier. C'est-à-dire on signe des accords et puis on les... Vous vous rappelez de ces notions-là? Il est bien évident que la perfide Albion est restée la perfide Albion et que c'est les Anglais. Bon. Et alors, le premier point, c'est cette délégation que Jacob envoie à Ésaü pour tenter de faire la paix, mais il s'aperçoit qu'il est prêt à la guerre, la Ligue arabe. Et puis, on verra la prière de Jacob à ce moment-là, et son inquiétude et son angoisse. Le deuxième grand épisode, c'est la lutte avec l'ange d'Ésaü, et qu'est-ce que c'est l'ange d'Ésaü, et le fait qu'il a été nommé Israël. C'est dans cette paracha que Jacob est nommé Israël, deux fois, une fois par l'ange d'Ésaü, et une deuxième fois, c'est confirmé par Dieu lui-même. Voilà donc notre programme, je commence tout de suite au premier point, oui. Voilà, alors on suit tout de suite. Sur le premier Rashi que nous avons étudié, il y a des livres entiers, des bibliothèques entières qui ont été écrites. Mais je commence d'abord par les versets eux-mêmes. Alors vous êtes au chapitre 24, verset 4. Chapitre 32, verset 4. Vaishlach Yaakov Malachim, et Jacob envoya Malachim. On est habitué à traduire par ange. Mais le sens étymologique, c'est des envoyés. Littéralement, j'aimerais bien le traduire par des missionnaires, c'est-à-dire chargés de mission. Vous voyez, il y a le mot de Melacha derrière. Chaque Malach a une Melacha à accomplir. Melacha, c'est une mission, un travail. Petite parenthèse, j'en profite parce que chaque fois que j'assiste à un repas du vendredi soir, il y a dans le Shalom Aleichem une faute d'orthographe. Et comme on est en train de faire le kiddush, alors je ne peux pas intervenir. J'en profite pour vous expliquer de quoi il s'agit. La formule, c'est Shalom Aleichem, Malaché Asharet, le premier, Malaché Elyon, Mimelech Malaché HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et pas Mimelech Malaché HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. Méfiez-vous. Hein? Vous avez compris, c'est pas peine de traduire. Je crois que ça vient du mouvement de jeunesse, où on chantait l'hébreu sans le comprendre, et alors il y a eu un télescopage entre Melachim et Malachim. Rien à voir. Alors, le Melech, c'est le Duce, le Mehalech, celui qui marche en avant, le guide qui est devant, hein? Ça c'est le Melech. Tandis que le Malach, c'est un missionnaire, chargé de mission, un envoyé. Vaishtar Yaakov Malachim, Nefanav, devant lui. Alors, il faudra aussi étudier pourquoi devant lui, c'est de trop. S'il les a envoyés, bien sûr qu'ils sont devant lui. Tout de suite la réponse de ça, pour ne pas perdre de temps. Qui peut proposer une réponse? Vous avez compris la question? Il a envoyé des envoyés devant lui, et bien devant lui, il y a de trop.
Ça veut dire qu'il vient après.
Très bien, ça veut dire qu'il vient. C'est pas qu'il a envoyé une délégation SRAC. Vous voyez ce que je veux pas dire. Bon. Et là, Esav arrive à Esaü, son frère. Il y a deux commentaires dans le Midrash. Le premier, c'est que bien qu'il soit Esaü, c'est quand même son frère. C'est un Midrash, il faut bien comprendre. Okay? Et puis le deuxième Midrash qui dit, il voulait aller vers son frère, mais qu'est-ce qu'il a trouvé, Esaü? Juste l'inverse. Arsa Seir, en direction du pays de Seir, qui est l'héritage d'Esaü, le pays de Seir se trouve au sud de la Jordanie. Et des deux côtés du Jourdain, d'ailleurs, je pense. Quand vous vous baladez dans cette région là-bas, les terres sont rouges. C'est pourquoi ce pays s'appelle Edom. C'est ferrugineux, je pense, quelque chose de ce genre. C'est Edom, le champ de Edom. Regardez tout de suite un problème qui va nous occuper de façon importante, le dédoublement des indications. Vaishlah, Malachim, Lefanav, c'est doublé. Et Esav, Achiv, c'est doublé. Arsa, Seir, Edom, c'est doublé. Vous suivez ça? Non. Vaishlah, Otam, les mots, et il leur ordonna en disant, Kotomerun, Ladoni, les Esav. Vaishlah, Otam, les mots, et puis c'est doublé. Kotomerun, Ladoni, les Esav. Ainsi, vous direz, Ladoni, les Esav, à mon maître, à Esav. Et surtout, je vais essayer d'étudier avec le Midrash pourquoi Jacob se permet d'appeler Esav Adoni. Le mot de Adoni dans le texte biblique, c'est plus que monsieur, mon sieur. C'est Adoni. C'est la préface de Adonai. Et puis, on voit que Jacob se prosterne devant Esaü. Il y a, ici, je pousse les choses à la limite, mais je voudrais formuler l'enseignement que j'ai reçu de mon maître Jacob Gordon, Zichrono Livracha, qui a vécu l'exil des Juifs européens en Europe centrale, Russie et Allemagne, et qui a très bien écrit cela. Il y avait dans le temps de l'exil, on est en train de sortir de cela, pas complètement, mais presque, une attitude de Jacob vis-à-vis d'Ésaü, c'est-à-dire d'Israël en exil vis-à-vis des nations de l'exil, qui était, alors les mots m'échappent, je vais retrouver ça, parce qu'il avait expliqué ça en yiddish, et c'est ma femme qui me traduisait. C'était une espèce de stratégie des courbettes. Comment on dit ça? Stalt. Qui connaît le yiddish? Hein? Non, c'est du français, ça, mais en yiddish. Stalt. La stratégie politique des juifs de cour. Comment ça se dit en yiddish? La méchant. Oui, hein? Oui. Les communautés juives chargées un pépin envoyaient toujours à la cour un négociateur, mais qui avait une attitude d'esclave. Enfin, une attitude. S'il y a parmi vous des juifs marocains qui ont encore vécu au Maroc, ça se passait comme ça entre les juifs et les sultans. C'est-à-dire vraiment, le délégué de la communauté juive devait commencer par embrasser la babouche du sultan. Et on a oublié toutes ces choses-là. Okay. Mais, oui, cette espèce de courber les chines devant Jacob, qui courbe les chines devant Esaü, ça préfigure, ça décrit la situation des Juifs dans l'exil. Ce n'est que depuis qu'il y a l'État d'Israël que les Juifs sont des Juifs redressés. Mais ils ont été des Juifs courbés pendant tout le temps de l'exil. Je pense que c'est clair ce qui apparaît là. Et alors le Midrash est très dur pour Jacob, qui se prosterne devant Esaü et qui l'appelle mon maître, mon seigneur, mon sieur. Il y a un lien avec Hanouka, on s'approche de Hanouka, qui a été souvent enseigné par les commentateurs, la source est dans le Midrash, qu'il y a eu un juif qui s'est redressé dans l'exil, c'est Aman. Il ne voulait pas se courber devant Mardochée. Hein? Ça m'arrive souvent. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Esther a dit à Mardochée, si tu ne veux pas intervenir, d'un autre endroit, ça viendra. Le salut viendra. Et alors à Pourim, c'est pas que j'ai déjà festoyé Pourim. On prend Aman pour Mordechai et Mordechai pour Aman. Bon, je referme la parenthèse. Quand je vous disais, Aman, il y a pire. Parce qu'Aman n'a pas réussi à tuer un juif. Enfin, il y en a d'autres qui ont réussi. Et alors, oui, bon, je vais vous dire une blague de pourri. C'est que Mardoché en avait marre d'hocher la tête. Il s'est redressé. Et bien justement, le verset qui devrait nous donner le nom de Mardoché, c'est Ish Yehudi Haya, Beshushan Avira, Ushme Mordechai, Ben Yair Ben Shimi, Ben Kish Ish Yemini. Mardoché descend de Benjamin. Or, Benjamin n'était pas encore né quand Jacob a fait prosterner tous ses enfants devant Esaü. Et donc, la descendance de Benjamin, c'est elle qui nous permet de redresser la tête. Je referme cette parenthèse. Kohamar, ainsi a dit Avdecha Yaakov, de nouveau le doublé, Avdecha Yaakov, Eim Laban Garti, j'ai séjourné chez Laban, Vaecha Arata, et j'ai tardé jusqu'à présent. De nouveau, ce doublé. Vaihili Shovahamo, j'ai eu bœuf, âne, son, veve de chifra, troupeau, serviteur, servante, Vaeshlecha Leagid, et j'ai envoyé ces malachim, Leagid Ladoni, pour expliquer, pour dire, annoncer à mon Seigneur, Nimsochen Beinecha, pour trouver grâce à tes yeux. Tout de suite, il y a une difficulté. Il veut lui envoyer une délégation de paix. Or, la colère d'Ésaü, la frustration d'Ésaü, c'est à cause de la bénédiction que Jacob avait pris d'Ésaü. Et voilà que Jacob semble s'en vanter. Ça a réussi, la bénédiction que je t'ai prise. Alors, ça excite sa colère, c'est tout le contraire. Et il dit, Nimsochen Beinecha, pour trouver grâce à tes yeux. Alors, il excite sa colère. Il y a très souvent chez les Juifs, d'ailleurs, une insouciance, de cet ordre qui provoque la colère des goyim. Les juifs sont d'une naïveté parfois déconcertante. Ça va un peu dans ce sens-là. Mais je vais expliquer ce qu'il veut dire en réalité. Comme par exemple, j'assistais souvent à des colloques de théologie, il y a toujours des juifs pas toujours compétents qui s'arrangent pour insulter les goyim sans avoir l'air de rien. C'est-à-dire de dire deux choses à la fois, mais qui les rendent fous. Seulement, comme ils sont égoïmes, ils sont polis. Alors ils réagissent. Mais quand ils réagissent. Ils disent, voilà, on vous a donné votre Dieu, mais vous êtes des sauvages, d'adorer des cannibales, d'adorer un Dieu d'idolâtre. La messe est une cérémonie d'anthropophage. Hein? Et oui, vous voyez ce que je veux dire. Bon, schématiquement. Alors, les deux choses à la fois. On vous a donné votre Dieu, mais on n'y croit pas. C'est-à-dire que vous êtes des australopithèques. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, j'en connais un, il est encore vivant, donc qu'il dorme en paix, ben, sinon j'aurais dit qu'il est représenté. Pourquoi je parle comme ça de lui? C'est un professeur à l'université de Jérusalem et qui est à la retraite, c'est le professeur Flusser. Il déteste les chrétiens et il passe son temps à leur faire la cour. Mais de manière insidieuse, comme ça. Vous voyez un peu ce que je dis. Bon, enfin bref, on revient au sujet. En réalité, je m'appuie sur Rashi, ce que Jacob veut lui dire, c'est que la bénédiction des biens matériels, terrestres, qui était prévue par Isaac pour Ésaü, mais qui, par la stratégie de Rebecca, est donnée est donné à Jacob, et ça j'expliquerai rapidement, on l'a étudié je pense déjà cette année, c'est Mishmane Aretz, Mital Hashamayim Mishmane Aretz. des biens qui viennent du ciel et de la terre. Et l'argumentation de Rashi est très claire en s'appuyant sur le Midrash. Tout ce que j'ai eu, ça vient de mon travail. Ça vient ni du ciel ni de la terre. Donc c'est tout le contraire. On a évacué l'invraisemblance. Puisque le plan de Isaac, c'était puisque Esaü a choisi ce monde-ci, de le bénir pour ce monde-ci, il partagera avec Jacob. Et puisque Jacob a choisi le monde à venir, de le bénir pour le monde à venir, il partagera avec Esaü. C'est le rêve d'Isaac. Mais Rebecca, elle, la mère, sait qu'il y avait une clause pour que ça réussisse, c'est que les frères s'aiment. Or, les frères ne s'aiment pas. La mère sait que les frères ne s'aiment pas, et c'est pourquoi il y a quatre possibilités. Soit Esaü reste Esaü et Jacob reste Jacob, et dans ces deux cas, c'est l'échec. Il faut unifier ces deux capacités, ce monde-ci et le monde à venir. C'est clair, hein ? Soit un Esaü qui se prend pour Israël, la voix c'est la voix de Jacob et les mains c'est les mains d'Esaü, et ça c'est ce que la chrétienté a réussi dans l'histoire. La première fois que j'ai rencontré un curé, j'ai rencontré un Romain qui parlait comme un Hébreu, en citant la Bible avec une voix romaïque. Je sais pas, romantique, parce que c'était la Rome antique. Mais quoi qu'il en soit, la première fois, je me rappelle très bien, vous avez dû avoir ces expériences d'écouter un curé citer la Bible, ça fait froid dans le dos. C'est la terreur d'Isaac. Akol kol Yaakov et Adaim et Esav. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Et d'ailleurs, très souvent, les chrétiens ont pris la croix, ils l'ont inversée, ils en ont fait une épée. Je ne sais pas si vous voyez le... D'ailleurs, très souvent, les chevaliers prenaient leur épée comme croix. Vous vous rappelez de ça ? Vous étiez...
Au cinéma.
Mais j'allais dire, moi aussi. Eh bien, c'est pourquoi Rivka réussit cela, que Jacob, qui a pour vocation la vie spirituelle, assume aussi la vie matérielle, enfin les tâches de la vie matérielle, et c'est ça Israël. Et je crois, une petite parenthèse dans la parenthèse, c'est le grand débat entre Israël des Israéliens et les Juifs des communautés juives de l'exil. C'est-à-dire les communautés juives de l'exil se définissent comme Israël voué à l'esprit. Et la matière, c'est les goïms chez qui on vit. Je pense que c'est clair. Hein ? Alors qu'Israël, c'est Jacob qui réussit les tâches d'Ésaü, c'est-à-dire les tâches matérielles, en tant qu'Israël. Vous voyez la différence ? Et alors, le niveau Jacob et le niveau Israël sont toujours en tension. Mais vous aurez d'ailleurs dans la paracha, c'est Pierre Simsovic qui en parle, je ne sais pas si c'est dans Vaïgash ou dans Vaïchlach, enfin, vous verrez dans les parachutes, il y a cela. C'est que Jacob, comme Jacob, a peur des tâches d'Ésaü. Ça, c'est le juge du ghetto. Hein? Et lorsque Jacob réussit les tâches d'Ésaü et reste tzadik, alors ça, c'est Israël. Donc, le Gaon de Vilna a fait lire le verset dans ce sens-là. « Akol kol Yaakov et Adaim et Esav, Zéo Israël. » Vous avez compris comment le verset change, hein? Quand la voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Esaü, les deux cachères, c'est ça Israël. Alors, ces deux tâches, dans la descendance de Jacob, sont réparties entre Judas et Joseph. Et Joseph a fait la preuve qu'on pourrait être un Esaü tzadik. C'est pourquoi Joseph est appelé dans le Midrash « Sitno chez la Esav ».« Sitno chez la Esav », comment traduire ça en français ? Le, l'adversaire, le... Hein? Oh, oh, Sitno, Satan, le Satan de Esav.
Un accusateur ?
Hein?
On va dire l'accusateur.
Non, c'est pas suffisant.
L'adversaire.
L'adversaire, mais c'est plus, le vainqueur de Esav. En tout cas, celui qui fait obstacle à Esav. C'est-à-dire, Esav est disqualifié tant que nous avons Joseph. Je ne sais pas si c'est clair, ça. C'est-à-dire, Mazé Joseph, l'homme de la matière, mais tzadik. Alors que Judas, c'est l'homme de l'esprit. Et il faut que les deux soient ensemble pour qu'il y ait Israël. Tant qu'il y a que Judas séparé, c'est le ghetto. Joseph séparé, c'est le kibbutz. Mais s'il y a les deux, c'est Israël. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Enfin, vous voyez. Hein? Vous voyez, et d'autres entendent. Pour revenir au sujet, donc cette difficulté est déjà un peu évacuée. Il n'y a pas de question là-dessus. Je vais revenir sur ces versets, Mais est-ce que sur ce que j'ai expliqué, il y a pas de question? Top.
Bon, moi j'en ai beaucoup, mais... Alors on va prendre Rashi. Vaishtach Yaakov Malachim. Et Jacob envoya des envoyés. Dans le Midrash, il y a une controverse. Et le premier enseignement, c'est sur ces Malachim. Qu'est-ce que c'est ces Malachim? C'est Shiluche Basar Vadam. Des envoyés de chair et de sang. Retenez bien l'expression en hébreu, parce que nous allons voir un deuxième sens. Shiluche Basar Vadam. C'est la première thèse du Midrash. La deuxième, c'est Malachim Mamash, des anges vraiment. Et Rashi prend la deuxième, les anges vraiment. Là, je vous pose une question de méthode. Quand il y a une controverse, que ce soit dans le Talmud ou que ce soit dans le Midrash, c'est toujours la première thèse qui est le pshat. Et la controverse vient à cause de causes qu'il faut élucider, changer le sens et le remettre à un niveau supérieur. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Je me suis mal exprimé. Par exemple, vous avez la machloket entre Beit Hillel et Beit Shammai. Eh bien, c'est Beit Hillel qui est en machloket avec Beit Shammai. Les premiers enseignements étaient ceux de Beit Shammai, vient Beit Hillel et s'oppose. Vous avez bien compris. Donc c'est toujours la deuxième thèse, celle qui vient après, qui est la thèse de la machloket. Par conséquent, pour le Midrash, le pshat, c'est Vaishtah Yaakov Malachim Lefanav. Il faut traduire Malachim par des envoyés de chair et de sang. Revient le Midrash sur lui-même. J'ai oublié les noms des Ravanim, pour ça je ne les cite pas. Et je n'ai pas pris mon Midrash, mais si vous voulez, je peux vous les donner. Il a dit non, Malachim Mamash. Pourquoi cela? Alors on va d'abord justifier, c'est ce que font la plupart des commentateurs du Midrash, la deuxième thèse. Qu'est-ce qui mène le Midrash à dire non, c'est des vrais anges? C'est à cause de ce qui se passe avant. Regardez bien ce qui se passe. Prenez les deux versets précédents. Lorsque, au début du chapitre 32, juste avant, lorsque Jacob revient de chez Laban, verset 2. Je vais prendre un peu. Bonjour, madame Chaconia. Et Jacob alla à son chemin. C'est la bracha qu'on se dit chaque fois qu'on se quitte. On souhaite à l'autre, Yaakov alach ledarko. Vaïgeroubo malaché Elohim. Et l'atteignir, le heurter littéralement, mais il faut atténuer le sens, le rencontrèrent des anges de Dieu. Bonne expression malaché Elohim. Si la Torah a tenu à dire Malaché Elohim pour dire des anges, alors c'est que Malachim Stam, c'est Basar Vadam. Ça justifie le premier pshat du Midrash. Mais je reviendrai, c'est clair. Je reviendrai là-dessus. Seulement, justement, le Midrash va revenir en disant Malachim Mamash, parce que Jacob a envoyé de ces Malachim-là à Esaü. Donc c'est bien des Malachim Mamash. Et par conséquent, il faut justifier maintenant le pshat. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Shiluche Basar Vadam? Je suis allé un peu trop vite dans la discussion. Où ça va? Verset 3 du chapitre 32. Vayomer Yaakov Kasheram. Et Jacob dit, lorsqu'il les vit, Mahane Elohim Zeh, c'est un camp divin de Dieu. Vaikra Shema Makomaze Ahu Mahanaim. Et il nomma le nom de cet endroit, Mahanaim, au duel. Mahane, ça veut dire le camp. Mahanaim, les camps au duel. Rashi explique, parce qu'il y avait deux sortes d'anges. Ceux d'Eret Israël qui venaient accueillir Jacob, et ceux de Houtlaaret qui avaient accompagné Jacob dans son retour. Alors les Malachim, il y a un camp de Malachim, les Malachim d'Eret Israël, qui accueillent Jacob, mais je voulais inverser, le camp des Malachim qui reviennent de Houtlaaret et qui remontent, et le camp des Malachim qui viennent accueillir Jacob et qui descendent. C'est ces Malachim, dans la logique de cette explication de Rashi, que Jacob avait vu dans l'échelle, sur l'échelle des anges. Vous vous rappelez que la difficulté était que sur l'échelle, les anges descendaient et montaient. Descendaient, c'était les anges d'Israël qui descendaient. Non, là-bas, c'était les anges de Ruth Laaretz qui descendaient pour prendre Jacob avec lui, avec eux, et les anges de Eretz Israël qui remontaient. Ça y est, c'est clair? Donc nous avons ici un problème qu'il faut comprendre tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges d'Eretz Israël, les anges de Ruth Laaretz, ne sont pas les mêmes? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un ange? C'est là que vous ne commencez pas à comprendre. Je vous donnerai une des explications de la Kabbalah. C'est une des notions les plus mystérieuses de la Torah, du Mikra. Je cite souvent quand je parle au Goyim pour leur expliquer que si on ne lit pas en hébreu, on n'y comprend rien dans la Bible, et qu'il y a un grand mystère, pourquoi les Goyim y comprennent quand même quelque chose. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Akiva que je voudrais vous citer, je l'ai assez souvent cité, parce que le problème se pose. Comment comprendre que ce livre que personne ne comprend a secoué l'humanité entière? C'est clair la question. Okay, et je vous garantis qu'ils y croient. Okay, je crois qu'il n'y a que les juifs qui ont des difficultés à comprendre comment, à quel point les goïms croient dans la Bible. Et pourtant ils y comprennent rien. D'ailleurs, toutes leurs traductions sont fausses. Et ils le savent. Et alors qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi Akiva va enseigner ceci à propos du deuxième verset du Cantique des Cantiques. Les Réach Shemanecha Tovim Alken Alamot Aevucha. La bien-aimée dit au bien-aimé, quant au parfum, tes huiles sont bonnes, et c'est pourquoi les jeunes femmes t'aiment. Et Rabbi Akiva dit, les jeunes femmes, c'est les goyim. Et il s'agit d'Israël. Alors il raconte l'apologue suivant. Il y a un Refes Rachoud. J'ai parlé des goyim. Alors, il raconte l'apologue suivant. Quelqu'un. Alors, il va quand même chez le parfumeur. Et pendant que quelqu'un d'autre, qui a de quoi acheter l'huile parfumée, vient l'acheter, le parfumeur transvase d'un vase à l'autre, et celui qui n'avait pas d'argent respire quand même le parfum. Alors l'huile parfumée, il ne l'a pas, mais le parfum de l'huile, il l'a. Ça veut dire qu'il y a un parfum qui se dégage du mikra, qui atteint l'égoïme, alors de loin, ils ont respiré que le salut passe par là. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors ça, c'est pour expliquer pourquoi l'égoïme... Mais quand je leur dis, et je rends tout de suite des exemples depuis le premier verset, si on ne lit pas en hébreu, on n'y comprend rien, eh bien, je veux dire quel est le raisonnement dont je me sers toujours. Si ça ne marche pas, je continue. Mais dès qu'on continue, ça marche. Regardez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la traduction en français. Eh bien, ça peut être ni avant le commencement, ni après le commencement. Donc le mot de au commencement est de trop. C'est clair? Donc on n'a pas traduit le vrai verset. Ça suffit. Et puis ici, ça suffit. On continue. Et la terre était chaos. Alors regardez ce qui se passe. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Résultat, le chaos. Personne n'y comprend rien. Mais on fait comme si on comprend et on continue. Vous avez compris? Non, je voudrais que ça soit bien clair. Il est évident que si on ne le lit pas, Belashon HaKodesh, on n'y comprend rien. Et puis ça continue, ça continue. Rien que l'histoire de la côte. Comment Dieu crée tout de manière majestueuse dans le Maaseh Bereshit, dès qu'on arrive à la femme, grâce à qui on existe, c'est une scène incompréhensible. On rentre dans un laboratoire d'analyse, anesthésie, tardéma, opération chirurgicale, et d'une côte, on te fait une femme. Continuez à croire en français, mais c'est pas ça. Et puis, moi, je suis toujours émerveillé, le nombre de consciences qui croient dans ces mythes-là. Je parle des traductions, ok? Parce que nous sommes, nous, anti-semites. Mais il faut lire en hébreu. Et en hébreu, c'est tout à fait autre chose. Vous n'avez pas l'air convaincu. Bon. Alors, pour revenir à notre sujet, je leur dis, ben voilà, la Bible parle des anges. Et personne ne sait ce que c'est qu'un ange. Même pas les peintres italiens qui ont dessiné des séraphins. Personne ne sait. Et pourtant, on fait comme si on comprend. Alors, je vous donnerai une définition philosophique théologie, philosophie, et une explication de la Kabbalah. C'est que l'ange dont parle la Torah, c'est la volonté du Dieu un qui s'applique à tel ou tel phénomène. Par exemple, l'ange de la guérison, eh bien, c'est Dieu lui-même s'occupant du phénomène guérison. Alors, il y a une tzimtzum, comme on dit ça en français, une diminution, une réduction de très pointu sur un point de la présence de la providence, et ce point qui concerne tel ou tel phénomène, ou tel homme, ou tel...